Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Philippe Blaise, premier vice-président de la province sud, élu du groupe loyaliste au Congrès. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter notre invitation. Alors, on ne vous entend pas très souvent, Philippe Blaise, et parmi vos déclarations, vos récriminations, vous dénoncez une armée du mensonge, vous appelez de vos voeux une armée de la vérité. Alors, quels sont aujourd'hui, et dans la vie publique, dans la vie calédonienne, les mensonges qui vous agacent le plus ?
Oui, en fait, on voit bien que le dossier calédonien est devenu un enjeu qui dépasse les limites du récif. On le voit à l'ingérence de Bakou à travers le Bakou Initiative Group, où vont très régulièrement des élus et cadres indépendantistes. On voit à l'ingérence de LFI dans le dossier calédonien. Et on est devenu un enjeu de combat idéologique, avec beaucoup de mensonges qui sont dits sur ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Je vois deux mensonges principaux. Premier mensonge, les raisons du 13 mai 2024. Ce qui s'est passé l'année dernière, on essaye de faire croire pour excuser les vrais responsables des destructions épouvantables que nous avons subies, la situation catastrophique où nous sommes aujourd'hui, on essaye de faire croire que c'est un problème social, que c'est le malaise de la jeunesse. Nous qui avons vécu ça dans notre chair, qui avons perdu des gens, parce qu'il y a des gens qui sont morts des conséquences de ce qui s'est passé le 13 mai 2024, soit par manque de soins, soit par accident de santé à cause du stress. Et moi, j'en ai dans ma famille. Nous avons bien vu ce qui s'est passé. Je rappelle pour ceux qui ont la mémoire courte, mais en fait, il y a eu une montée en tension par un refus de la CCAT du processus de dégel du corps électoral, une succession de manifestations par lesquelles on a fait venir des gens sur Nouméa, on a fait descendre des gens qu'on a laissés dans les quartiers. Et dans la nuit du 12 au 13 mai, des ordres ont été donnés de mettre le feu à Nouméa. Et ça, on en a la preuve. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le dimanche 12 mai, il y a eu une manifestation devant le Congrès, organisée par la CCAT. Il y avait Gérard Régnier au micro, et on entend quelqu'un dire: on va brûler Nouméa.
Oui, la vidéo a circulé d'ailleurs, voilà. Donc tout le monde est au courant.
Alors, c'est pour ça que c'est extraordinaire d'entendre aujourd'hui Christian Théin dire « je suis le premier désolé de ce qui s'est passé ». Ben non, t'es pas le premier désolé, t'es le premier responsable. Il a été celui qui a été derrière tout ça, et nous le savons tous ici en Calédonie. Et à tel point que lorsqu'il sort de l'entretien avec Emmanuel Macron, qu'il fait sortir de sa détention à domicile, il a le culot de faire une réunion où il dit, et j'ai dit à Macron, on a mis 80 ans d'économie coloniale par terre. Donc il a revendiqué ce qui s'est passé. Et nous les Calédoniens, qui payons aujourd'hui les conséquences de ça, avec 800 entreprises détruites, des dizaines de milliers d'emplois détruits, un pays à terre, des morts, une économie en ruine, un modèle social en ruine, il faut qu'on fasse connaître cette vérité hors du territoire.
Il y a une enquête judiciaire qui est en cours. Vous pensez qu'elle va aboutir, qu'elle va arriver à prouver ses responsabilités ? Parce que pour l'instant, ses avocats répètent régulièrement qu'il est présumé innocent et que le dossier est vide.
Je ne pense pas que le dossier soit vide. Je pense que s'il a été mis en détention provisoire, ce n'est pas par hasard, parce que la France est un pays de droit. On ne met pas les gens en prison en fonction de leurs opinions politiques. On les met en prison parce qu'ils ont commis des choses. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il essaye de passer pour un gentil, mais on sait très bien ce qu'il en est. La justice fera son travail. Et ce n'est pas par hasard qu'il a été refoulé à l'Élysée. C'est pas par hasard. Rappelons-le, pour ceux qui ne le savent pas, il a été refoulé. On l'a empêché de rentrer à l'Élysée, tout président du FNKS qui est. Donc, premier mensonge, Elisabeth, il faut vraiment que les Calédoniens fassent savoir en métropole, auprès de leurs amis, auprès des gens, ce qui s'est passé le 13 mai. On a été victime d'une tentative de coup d'État par des gens qui se sont organisés pour obtenir par la violence ce qu'ils n'ont pas obtenu par la démocratie. Et vous savez, ils n'ont pas arrêté parce qu'ils l'ont décidé. Ils n'ont pas arrêté parce qu'ils ont estimé que c'est allé assez loin. S'ils avaient pu, ils seraient allés beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Pourquoi ils se sont arrêtés ? Pour deux raisons. Parce que les Calédoniens ont fait des barrages pour protéger les quartiers et pour les empêcher de brûler nos maisons.
Vous parlez des voisins vigilants.
Ce qu'on appelle
les
voisins vigilants. Oui. Donc moi, je salue cette réaction populaire, parce que c'est ça qui a sauvé Nouméa, c'est ça qui a sauvé beaucoup de quartiers. Ça a donné le temps à l'État de faire venir les renforts, et lorsque les renforts sont arrivés au bout d'une semaine et demie, deux semaines, avec le GIGN, la gendarmerie, les renforts de police nationale, l'État a repris la main. L'État a repris la main, il a restauré l'ordre public, ça a été très long, on s'en rappelle, il y a des quartiers comme Rivière-Salée, Tindu, Caméré, qui sont restés très longtemps aux mains de gens armés, dangereux, des gens qui avaient tiré et blessé des forces de l'ordre. Ça, il faut le faire savoir, parce qu'on parle des morts du côté des jeunes qui sont morts, mais il faut savoir qu'il y a dès les premiers jours, il y a des armureries qui ont été prises d'assaut par les émeutiers, c'était organisé, et il y a eu des forces de l'ordre de la BAC qui ont été très gravement blessées par des tirs volontaires pour les tuer. Donc, ça s'est arrêté pas parce que la CSAT l'a voulu, ça s'est arrêté parce qu'ils ont été arrêtés. C'est ça, la réalité.
Alors, Philippe, je vais quand même me faire l'avocat du diable, peut-être. Vous dites, vous donnez les raisons de ce mouvement du 13 mai. Vous ne pouvez pas nier qu'il y a une jeunesse en déshérence, une jeunesse qui n'arrive pas à trouver sa place dans la société calédonienne. Ce n'est pas elle qui a mené ces émeutes. Ça a été juste le... Elle a été utilisée pour ces émeutes, mais elle existe.
Prenez les tours de Magenta, par exemple. Les tours de Magenta, c'est des jeunes de Marais qui ont... C'est pas forcément c'est des gens qui, vous savez, qui ont été déplacés avec le conflit d'Euro. Il y a beaucoup de gens venus de l'extérieur qui sont venus à l'occasion des manifestations organisées par la société. On avait vu cette petite vidéo, on voyait un jeune de Puebo qui se faisait corriger par un habitant de Caméré qui dit « Mais pourquoi tu as brûlé le magasin de nos vieux ?»« Ah ben on m'a fait venir et puis on m'a donné les instructions. » Mais ces jeunes, beaucoup de délinquants, beaucoup de gens issus du camp Est, ont été très clairement encadrés par des cadres de la CCAT. Nous, on a été témoins à Magenta, des gens qui venaient de nuit avec des véhicules volés, qui donnaient des consignes, qui donnaient de l'argent, de l'alcool, et qui leur ont dit, ben là, vous allez mettre une voiture, vous allez brûler les installations de la province sud, là où il y avait les tenues scolaires. Donc oui, tout cela a été organisé, et ça n'est pas un mouvement social. Donc ça, c'est le premier mensonge contre lequel on doit, nous, se battre. Rétablir la vérité de ce qui s'est passé le 13 mai. Il y a des gens qui ont pris la responsabilité de détruire ce pays, et on reviendra là-dessus. Et puis le deuxième mensonge, c'est qu'on essaye en fait, en métropole, c'est tout cette tendance décolonialiste qui est soutenue par Bakou. La Calédonie n'est qu'un pion dans un jeu géopolitique international. Ce sont ceux qui contestent les démocraties occidentales, qui contestent les pays libres. Ce sont ces États voyous, la Russie, l'Azerbaïdjan étant un proxy de la Russie, qui en fait, essaye de faire croire que la France serait en Calédonie un État colonialiste. Et je crois que c'est même Daniel Goa qui est allé très loin, qui a dit que la France se comportait comme l'Allemagne nazie ou la Russie en Calédonie. Nous, on est Calédoniens depuis des générations. On est nés dans ce pays. Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents sont nés dans ce pays. On sait que ce n'est pas vrai. On sait que ce pays, ce n'est pas l'Afrique du Sud. Dans ce pays, il n'y a pas une minorité de privilégiés blancs qui oppriment une majorité de Noirs. La réalité, c'est que ce pays, c'est un pays multiracial depuis toujours. La colonisation française a toujours été une colonisation de métissage. Nous avons tous, dans nos familles, des gens qui sont issus de ce grand mélange de la France d'outre-mer, qui est pour nous une fierté. C'est notre identité, c'est notre âme, c'est quelque chose qui est beau, qui est noble et qui doit être défendu, parce que nous ne pouvons pas accepter que des gens nous insultent et travestissent la réalité humaine de la Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, c'est un pays où il y a deux moitiés indissociables. Vous avez les Mélanésiens, le peuple premier, mais vous avez une autre moitié, voire une majorité de gens qui sont issus de ce grand brassage humain de la France d'outre-mer.
C'est ce qu'on appelle les deux légitimités qui coexistent en Nouvelle-Calédonie.
Ce sont les deux légitimités, très exactement, qui ont été reconnues et actées dans le préambule de l'accord de Nouméa. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est en train de remettre totalement en question cette notion-là, qui est le socle de l'accord de Nouméa. Quand vous écoutez les propos de la CCAT et du FNKS, ce sont des propos racistes. Ce sont des propos qui remettent complètement en question l'existence de la majorité des habitants de ce pays. Et donc, nous devons nous battre pour faire savoir que la Calédonie, ce n'est pas l'image que donne ces crétins de LFI là, qui viennent venir qui viennent chercher des voix et qui sont allés voir que les indépendantistes, ils n'ont même pas eu le courage d'aller voir les autres Calédoniens, pour vous dire à quel point ils ne sont pas intéressés par connaître la réalité humaine de ce pays. Donc nous devons faire connaître cette réalité parce que le combat qu'on mène aujourd'hui, les discussions qu'il y a à Paris, vous savez, fondamentalement, c'est quoi ? On n'y va pas en réalité pour se battre, pour savoir où on place le curseur sur la souveraineté. Tout ça, les institutions, la théorie institutionnelle, elle n'est qu'au service d'une vision de ce qu'on veut faire d'un pays. Et ma conviction, c'est que nous, les loyalistes, depuis 40 ans, depuis que nous menons ce combat contre l'indépendance, nous ne nous battons pas pour savoir si on va être souverain, associé, un départ. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la reconnaissance de la dignité des Calédoniens dans leur ensemble. Ceux qui ont construit ce pays. Parce que ce pays, il n'était pas vide d'hommes. Il n'était pas vide d'hommes.
C'est ce que dit le préambule de l'accord de Nouméa. Quand il y a eu la prise de possession, ce pays n'était pas vide.
Mais on a oublié de dire une chose. C'est qu'il était vide de routes, il était vide d'hôpitaux, il était vide d'école, il était vide d'entreprise, il était vide de tout ce qui fait que la Cayenne d'aujourd'hui existe. Et tous les non-Kanaks, ceux qui sont venus dans ce pays au fil de l'histoire, par vagues successives, qui ont planté leurs racines dans ce pays, qui se sont mélangés avec la population mélanésienne, qui sont mélangés entre eux, tous ces gens qui sont des Calédoniens avant d'être des Français, qui sont des gens d'ici, ce sont ces gens-là qui ont construit ce pays. Ce sont ces gens-là qui font que la Calédonie est ce qu'elle est aujourd'hui. Et je trouve que c'est ça le combat qu'on doit mener, c'est arrêter de faire comme si nous n'existons pas. Il est inadmissible que le FLNKS puisse se permettre de dire « nous ne voulons parler qu'avec l'État ». Mais pour qui vous vous prenez pour ignorer la majorité des gens qui existent dans ce pays ?
Là, ils ont commencé à discuter, a priori, là, les discussions se déroulent à trois, des discussions tripartites, comme on dit. Mais cette question de la reconnaissance, on a même l'impression qu'on a fait un grand pas en arrière, bien puisque sûr. Vous le disiez, c'était reconnu bien dans sûr. Le préambule de l'accord. C'était évidemment les bases de l'accord de Matignon. Là, on en est à « Elle est à qui la terre ?» et on entend, même cette nuit pour nous, Emmanuel Tchibaou qui explique que la prise de possession s'est faite à sens unique et qu'il faut revenir dessus et que le FLNKS réclame aujourd'hui la pleine souveraineté qu'on lui a prise. Donc comment est-ce qu'on fait pour remonter le courant alors que finalement ces idées semblent avoir perdu du terrain aujourd'hui ?
Alors, en fait, vous voyez, Manuel Valls, par exemple, lui, il a eu tout faux et il s'est planté parce qu'il est rentré dans ça. C'est-à-dire qu'il est venu en Calédonie en faisant semblant d'ignorer totalement ce qui s'était passé avec l'accord de Nouméa, c'est-à-dire le préambule, les deux légitimités, en ignorant qu'il y a eu trois référendums où une majorité de Calédoniens, sur un corps électoral restreint, ont dit qu'ils ne voulaient pas de l'indépendance et qu'ils voulaient rester français, et en mettant en avant le peuple premier, ce qui a suscité une réaction tout à fait légitime de nos élus, qui ont dit « mais si vous arrivez comme ça, en faisant une distinction entre les uns et les autres, vous êtes dans le parti pris ». Emmanuel Valls, il a fini par tomber le masque et on a vu qu'en fait, il est venu avec un parti pris qui était de nous amener à l'indépendance. Je me réjouis qu'il ait échoué. Je me réjouis que le président de la République ait repris la main parce que, quelque part, c'est une forme de désaveu. Et il a relancé les discussions en remettant la balle au centre. Donc, il y a des gens qui, effectivement, essayent de faire comme si nous n'existions pas. Ce sont des gens idéologues, sont des gens qui pour moi, ne sont pas préoccupés du bien-être des Calédoniens. Et ces gens-là, ben, il faut les mettre de côté. Il faut travailler avec ceux qui viennent nous parler de façon la plus neutre possible, la plus juste possible. Ces deux légitimités, il faut qu'on les fasse coexister. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Il faut arriver à concilier la société mélanésienne, que je ne confonds pas avec le FLNKS, la CCAT, ce n'est pas la même chose, hein, qui est attachée à ses traditions, qui a sa coutume, qui a une organisation humaine particulière, historique. Mais il faut aussi la concilier, ça, avec la réalité humaine de la Calédonie, qui est que tous ces gens issus du brassage, tout ce métissage, toute cette population indigène non-kanak, parce que nous sommes des indigènes, des natives, comme disent les Anglais, parce que nous sommes d'ici et pas d'ailleurs, cette population-là ne peut pas se retrouver dans la structure coutumière. C'est pour ça que la coutume, n'est pas faite pour diriger l'ensemble de la Calédonie. Elle s'applique au monde mélanésien, mais elle ne peut en aucune façon suppléer les institutions démocratiques qui s'appliquent à un ensemble de populations d'origine diverse. Et donc, à côté du monde mélanésien, il y a donc cette société moderne qui fait ce qu'est la Calédonie d'aujourd'hui. Et cette société moderne, eh bien, ce sont les règles qui s'appliquent partout dans le monde, dans toutes les sociétés, parce qu'aujourd'hui, le métissage, c'est un phénomène universel. Et les sociétés ne peuvent pas fonctionner s'ils n'ont pas des institutions où chacun est traité avec la même dignité dans ses droits civiques, ses droits sociaux, ses droits économiques, sa reconnaissance au sein de la société.
Alors, l'accord de Nouméa avait grossièrement, s'était donné 20 ans pour permettre au monde mélanésien de rentrer dans les circuits économiques, dans la logique occidentale. Ça a échoué au bout de 20 ou 30 ans, et il est impossible aujourd'hui de leur permettre de faire le pas et de partager les valeurs d'une société occidentale et démocratique.
Il n'y a pas de réponse simpliste à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de réussite dans toutes les communautés. Il y a des Mélanésiens qui réussissent très bien, qui deviennent ingénieurs, médecins, pilotes d'avion, mais on sait qu'ils ne peuvent pas rester ici, qu'ils préfèrent rester en métropole parce qu'ils ont beaucoup de mal à revenir et à trouver leur place dans les contraintes égalitaristes du monde mélanésien. Ce n'est pas moi qui le dis, j'en ai parlé avec des gens du monde mélanésien, ils le reconnaissent eux-mêmes, c'est un problème. Donc il y a un problème de fond que nous ne pouvons pas régler à la place du monde mélanésien. Donc je crois qu'il y a là une réflexion à mener parce que c'est une vraie entrave au développement économique et social du monde mélanésien. Ce n'est pas normal qu'après 30 ans de rééquilibrage, on se rende compte que finalement, avec tout cet argent qu'on a déversé, des centaines et des centaines de milliards donnés par l'État, donnés avec la clé de répartition qui a été très généreuse, le bilan de tout ça, ça soit quoi? Il n'y a pas d'entrepreneuriat mélanésien ou quelques rares cas, alors qu'il y a des chefs d'entreprise dans toutes les autres communautés. En revanche, on a créé une bourgeoisie kanak, mais qui est une bourgeoisie de fonctionnaires. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que c'est pas ça qui crée de la richesse et qui fait avancer un pays. Ça peut atténuer les inégalités, mais sur le long terme, on a besoin d'avoir des gens qui créent des entreprises, qui créent des emplois et qui participent à la distribution de richesses. Tant que vous avez la coexistence entre des fonctionnaires et une population rurale, vous avez une persistance d'inégalités qui explique ce qui s'est passé depuis des décennies, c'est-à-dire toute une jeunesse qui est laissée à l'écart parce qu'elle ne trouve pas sa place si elle n'accède pas à des postes dans la fonction publique. Elle n'arrive pas à progresser socialement parce qu'elle est cantonnée aux activités rurales. Non, le bilan des 30 ans de rééquilibrage, il n'est pas bon. Il n'est pas bon parce que regardez aujourd'hui où on sent la province Nord et la province Île. C'est un échec total. On a tout misé dans le Nord sur KNS, qui a fermé, qui a fait faillite. Et à côté de ça, il y a quoi? Il n'y a plus rien. Oui, très peu de choses. Voilà. Les îles, c'est pire. Le scandale du Ouadra Bay, c'est l'illustration de l'échec de l'économie dirigée. Donc, tout cet argent, en fait, ben, il n'a pas produit les résultats qui étaient escomptés. On voulait créer...
La faute à qui? Qui est-ce qui s'est trompé dans ce processus?
Ben, qui a géré les provinces Nord et Îles? Ce n'est pas nous. Hein. Qui a géré les provinces Nord et Îles? Ce sont les indépendantistes. Il y a eu, à mon avis, enfin c'est à mon avis, c'est une évidence, il y a eu un postulat qui était de faire une économie socialisante, dirigée. Il y a eu un échec sur l'émergence d'un entrepreneuriat dans le monde mélanésien. Et aujourd'hui, on arrive à la situation où, en fait, la Calédonie n'a jamais été aussi dépendante des aides de l'État parce qu'elle n'est pas capable de voler de ses propres ailes. Ça a été dit par le président de la République, l'indépendance n'est pas viable. Aujourd'hui, on n'a jamais été aussi fragile d'un point de vue économique. Et cette situation est exacerbée par les conséquences du 13 mai 2024. On a eu très récemment le compte administratif 2024 de la Nouvelle-Calédonie qui montre que l'effondrement des recettes fiscales, parce qu'il y a des gens qui sont partis, qui ne payent plus d'impôts, des chefs d'entreprise sont partis, des professions libérales, tous ces gens qui sont partis, ces milliers de personnes sont partis, c'est des gens, ils faisaient partie des 92% de gens qui payaient des impôts et qui servent à payer tout le reste, la continuité territoriale, le RUAM, le rééquilibrage, tous les services publics. Donc ça a amplifié la situation et aujourd'hui, nous sommes arrivés au bout du système des 30 ans de rééquilibrage et d'assistana qu'on a mis en Calédonie. C'est-à-dire que même s'il y a une relance économique, ce que nous souhaitons, il va falloir remettre à plat tout ce que nous avons mis en place depuis 30 ans. Nous ne pouvons plus continuer à aider aussi généreusement des gens qui ne travaillent pas, ce n'est plus possible. Les gens, on ne peut plus demander aux Calédoniens de payer pour ceux qui ne travaillent pas.
Ben vous savez que c'est notamment l'un des gros reproches qu'on fait à la province sud, et je rappelle que vous êtes le premier vice-président, avec des aides sociales qui ont été diminuées, voire qui ont été attribuées en fonction de critères comme 10 ans de résidence dans la province sud. Est-ce que ça peut passer, ce genre de mesure, et est-ce qu'il y a un moyen de convaincre la population que c'est le seul moyen de s'en sortir aujourd'hui ?
Mais on l'a fait parce qu'on n'a pas le choix. Parce que, je sais, enfin, vous avez bien vu, il y a plus d'argent. Il y a un effondrement des recettes fiscales de la Nouvelle-Calédonie qui alimente les provinces, et la province sud s'est retrouvée avec une perte massive de recettes fiscales et n'a fait qu'ajuster ses dépenses de façon à éviter la faillite. Si on a arrêté de payer le Néobus, c'est parce qu'on n'était plus en mesure de verser les 700 millions par an de subventions. Si on doit restreindre les critères d'aide aux familles, c'est parce que nous n'avons plus les moyens de payer comme avant. Et ça, c'est pas que ponctuel, ça va être un problème de fond, parce que là, on vient de passer le compte administratif 2024 où on voit une baisse sur la TGC, on voit une baisse sur les centimes additionnels, les droits d'enregistrement. Mais on n'a pas encore absorbé tout le choc de ce qui s'est passé l'année dernière, puisqu'on n'a pas encore absorbé le résultat sur l'impôt sur les revenus de tous ces gens qui sont partis et le résultat sur l'impôt sur les sociétés de toutes les entreprises qui ont été détruites. Donc nous allons nous retrouver dans une situation où, de façon durable, pendant plusieurs années, les recettes fiscales de la Nouvelle-Calédonie seront beaucoup plus basses que ce qu'on a connu. Et donc les provinces et les communes n'auront pas d'autre choix que de réduire la voilure. Donc de conserver les dispositifs d'aide, mais qu'ils soient mieux ciblés auprès des gens qui en ont vraiment besoin. Et malheureusement, on a pris de mauvaises habitudes en Calédonie, où on a été trop généreux sur certaines choses. Je pense à l'aide au logement, je pense à la continuité territoriale. Et je le dis parce que les gens ont le droit à la vérité. Ce n'est plus possible de faire comme on faisait avant. Il va falloir maintenir les choses, mais à un niveau beaucoup plus bas qu'avant. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est de permettre aux Calédoniens de se remettre au travail. Il faut à tout prix qu'il y ait un consensus, au-delà des clivages politiques, pour constater que, qu'on soit indépendantiste ou qu'on veuille que la Calédonie reste dans la France, ou qu'elle soit associée, peu importe, aucun pays ne peut s'en sortir s'il a une économie dans l'état où notre économie est aujourd'hui. Ça doit devenir une cause d'intérêt général.
Alors, vous êtes d'accord avec le groupe UCF, LNKS et Nationaliste et son président, son chef de groupe, Pierre-Chanel Toutougraud. Il a déposé cette semaine une proposition de résolution pour reconnaître et déclarer l'urgence sociale. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est dans la même logique que la vôtre ?
On connaissait l'expression « les pompiers pyromanes ». Bon, ben là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce sont ceux qui étaient devant le congrès le 12 mai, qui disait on va brûler Nouméa, qui nous disent « Ah ben, il y a un problème en Calédonie ». Ben oui. C'est comme si on disait « Je comprends pas, j'ai mis le feu aux brousses et je pensais pas que la montagne allait brûler ». Non, c'est indécent de voir que ceux qui ont organisé les violences du 13 mai, aujourd'hui, viennent dire « Il y a un problème et si on le règle pas, il y aura à nouveau des émeutes ». Enfin, il faut rester sérieux. En revanche, effectivement, le constat, ben, ils sont intervenus après le vote du compte administratif. Le constat, il est sans appel. La situation calédonienne est catastrophique. Elle est incompatible avec toute forme d'indépendance, de sortie de la France. Si aujourd'hui, nous ne sommes pas en faillite, c'est parce que l'État nous a donné 1 milliard d'euros. C'est l'État qui est venu sauver la Calédonie. C'est l'État qui a permis que nous ne soyons pas complètement à terre.
Et maintenant, on s'en sort comment ? Vous restez optimiste malgré cette situation catastrophique, encore une fois, sur le plan économique, sur le plan social, l'incertitude politique, malgré tout, qui existe devant nous, même s'il y a des discussions actuellement à Paris, mais on ne sait pas encore sur quoi ni si elles vont pouvoir déboucher, étant donné les positions des uns et des autres. Comment est-ce qu'on s'en sort et comment est-ce qu'on rétablit les vérités, même puisque c'est un peu votre leitmotiv et votre volonté?
Écoutez, ça, le combat qu'on doit mener pour défendre notre dignité, notre légitimité ici, c'est un combat qui est indépendant des discussions, des tractations sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Je crois que c'est Didier Leroux qui a raison sur la méthode. Quand on discute dès le départ de ce qui nous confronte totalement, c'est-à-dire l'avenir statutaire, c'est très difficile de se mettre d'accord. Parce qu'il y a d'un côté ceux qui veulent la souveraineté pour la souveraineté, et ma conviction, c'est que les indépendantistes, qu'encore une fois, je ne confonds pas avec le peuple mélanésien, parce que ce n'est pas la même chose, sont prêts à toutes les souffrances pour leur population pour avoir le pouvoir. Eux, ils ont un objectif, ils veulent être président de Kanaky, ils veulent être ministre de Kanaky, quel que soit le prix à payer pour leur population. Nous, on veut rester dans la France, parce qu'on sait que c'est le seul système qui garantit la stabilité, la sécurité des populations, l'ordre public, et une société qui permet l'entreprise, une société qui garantit nos libertés. Donc, parler tout de suite des sujets qui fâchent, c'est compliqué. Mais il y a des sujets d'intérêt général. Et ces sujets, on peut en parler malgré nos différences politiques. Ces sujets, c'est l'avenir des jeunes. C'est le bien-être des populations. Qu'on soit indépendantiste ou loyaliste, même si je considère que la CSAT n'est pas responsable sur ces questions-là et dans une logique de pouvoir, je pense que dans l'ensemble de la population, il y a des gens qui ne peuvent pas se satisfaire de ce qui se passe aujourd'hui. Personne ne peut être satisfait de voir aujourd'hui des jeunes qui marchent dans la rue pieds nus, de voir qu'il y a deux fois plus de SDF qu'avant, de voir qu'il y a des familles qui ont perdu leur travail, qui n'ont pas de quoi mettre à manger sur la table pour leurs enfants. Ça, c'est une situation qui doit tous nous inquiéter, parce qu'on ne veut pas que ce pays ressemble à Haïti. On veut que ce pays soit un pays où les gens vivent dignement, où chaque enfant qui naît a droit à une éducation, a droit à être soigné correctement, a droit à avoir la vie la meilleure possible. Et je pense que nous pouvons mettre nos efforts ensemble, nous aider les uns les autres à porter ce projet-là. Il faut se battre pour l'éducation. Il faut se battre pour l'accès au travail, la formation. Il faut se battre pour le sauvetage des acquis sociaux. Tout ce pourquoi nos vieux se sont battus. Hein, la protection sociale, le chômage, les allocations familiales, les retraites. Tout ça aujourd'hui est en danger. La seule façon de sauver ces choses qui sont notre bien commun, qu'on soit indépendantiste, loyaliste, qu'on soit de telle ou telle ethnie, c'est que l'économie doit redémarrer. Et la seule façon qu'elle redémarre, c'est que collectivement, nous ayons des messages d'apaisement. C'est pour ça que ceux qui aujourd'hui continuent à proférer des menaces en disant « attention, si on ne tient pas ce qu'on veut, on va faire des émeutes », ces gens-là ne doivent plus être écoutés par la population parce que ce sont des irresponsables. Vous savez, je voudrais poser une question à toutes ces familles indépendantistes qui aujourd'hui se retrouvent... le papa a perdu le travail, il n'y a plus à manger sur la table. Est-ce que vous êtes content du bilan de la CSAT un an après? Est-ce que c'est ce pourquoi vous êtes battu? Est-ce que vous êtes battu pour ça? Moi, je crois que non. Et est-ce que vous êtes conscient que ceux qui vous ont dit d'aller brûler, d'aller tout casser, eux, la paye tombe tous les mois parce qu'ils sont dans la fonction publique? Ils sont élus, ils sont collaborateurs, ils continuent à voyager, ils continuent à aller se pavaner à Fidji, partout. Mais vous, ils vous ont fait faire des choses qui vous ont mis dans la misère. Le problème, il est là. Ce n'est pas un problème entre indépendantistes, c'est le problème entre des gens responsables qui font des choses pour que les familles s'en sortent et ceux qui sont prêts à sacrifier la vie des gens et leur bien-être pour le pouvoir. Ben nous, les loyalistes, on se bat pour le bien-être des gens. Ça fait 40 ans qu'on se bat pour rester français, pas parce qu'on est en train de défendre des privilèges, mais parce qu'on sait que rester français, c'est la meilleure garantie que dans ce pays, on puisse continuer à avoir les standards de protection sociale que des pays comme la France, les pays d'Europe ont mis en place et qui sont une référence dans le monde. L'éducation gratuite, les retraites, l'accès aux soins, l'aide médicale, le logement. C'est ça la dignité des gens. Si être indépendant, ça veut dire vivre comme en Papouasie-Nouvelle-Guinée, comme dans des pays du tiers-monde, ça, c'est pas la dignité. Et je crois que la séquence qui se passe à Paris, elle est très, très intéressante parce que, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Emmanuel Macron, il a remis l'église au centre du village. Il a contredit Manuel Valls, qui lui était sur une logique purement idéologique de pouvoir, l'indépendance de l'association. Il a dit non, ça ne sert à rien de parler de ça si on ne parle pas de ce qui est important pour les vrais gens. Et c'est ce qui est important pour les vrais gens, c'est leur quotidien. C'est la vie, c'est la dignité et l'avenir de leurs enfants. Après, je voudrais... j'espère que lorsque nos délégations vont revenir, nous, les loyalistes, nous allons prendre le temps d'aller rencontrer la société, parce que ce projet, on ne peut pas le faire, nous, dans l'entre-soi. On ne peut pas, nous, le construire tout seul de notre côté, les élus.
A priori, en plus, il y aura 15 à 20 ans pour le construire. Donc, ça laisse de la marge.
Non, mais s'il y a un accord, il faut le négocier. Et je pense que c'est important que nous prenions le temps, là, après la séquence parisienne, de rencontrer l'ensemble de la population, de rencontrer la brousse, de rencontrer les conseils municipaux, de rencontrer les représentants des communautés, les gens des quartiers, parce que on se bat pour eux. On se bat pas pour des institutions pour des institutions. Je crois que c'est le message important à passer aujourd'hui.
Avant de conclure, Philippe Blaise, on a commencé cet entretien. Vous dénonciez une armée du mensonge. Vous parlez à la fois de Bakou, de certains cercles parisiens, d'une partie de la presse, on le sait bien. Comment est-ce que vous répondez à cette armée de mensonges ? Comment est-ce que vous pouvez arriver à rétablir les vérités ? C'est un peu compliqué, non ?
Ah, ils sont très dynamiques, ils occupent les réseaux sociaux. Je tiens d'ailleurs à remercier RRB parce qu'il y a beaucoup de mensonges qui sont proférés là, ces derniers jours sur ce qui se dit à Paris. Et j'ai bien écouté ce que vous avez passé comme retour de Paris. Et vous avez rétabli la vérité, donc heureusement que RRB est là. Mais chacun à son niveau doit mener ce combat sur les réseaux, les contacts qu'il a à Paris. Et je crois qu'on a besoin, nous, Calédoniens loyalistes, aussi d'avoir des relais à Paris. Je sais qu'il y a des initiatives qui sont en cours pour avoir des comités de soutien à l'Académie française auprès d'élus parisiens, d'universitaires. Il faut des gens comme Éric de Schumacher qui est venu, qui a eu un gros succès populaire lors de sa venue, qui sont des gens qui défendent nos idées, nos images. Et donc, il faut que nous mettions nos forces en commun pour faire valoir notre dignité et notre légitimité.
Merci, Philippe Blaise, d'avoir accepté notre invitation dans ce magazine Transparence.
Merci beaucoup, Elisabeth.